Merci donc à Colette et au centre qui m'a invité. Merci à vous d'être là présent aujourd'hui. Voilà. Donc, ce que je voudrais faire, c'est une intervention en trois points. Donc, un premier point qui est en lien avec le titre même donc, de la conférence, « Dynamique identitaire et rapport à la formation d'adultes ». Il y a une petite erreur, « adulte », il faut le mettre au pluriel, parce que sinon, ça laisse beaucoup d'ambiguïté. Donc, c'est dynamique identitaire et rapport au pluriel, à la formation d'adultes au pluriel. Donc là, le premier point va tourner autour des dynamiques identitaires. Quelques précisions, qu'est-ce que j'entends par dynamique identitaire? Je crois que ça peut être intéressant de revenir là-dessus. Un deuxième point, c'est la présentation d'une typologie de dynamique identitaire que j'ai élaborée à partir de mes travaux de recherche. Et un troisième point, donc c'est un retour sur les rapports à la formation. Donc là, et donc on verra le lien entre dynamique identitaire et rapport à la formation. Et peut-être en conclusion, revenir sur quelques petites précautions, donc, notamment pour ne pas réifier cette idée de dynamique identitaire. Donc voilà. Alors, le premier point, donc les dynamiques identitaires, je voudrais dire que c'est un choix avec pas mal d'autres collègues chercheurs de ne pas raisonner en termes d'identité, mais plutôt de dynamique identitaire, parce que la notion d'identité est un peu ambiguë, elle est en même temps un processus et un état. Et donc le fait de parler en termes d'identité, ça risque de la substantialiser, de la réifier et de présenter les identités comme étant des phénomènes fixes, alors que les dynamiques identitaires mettent plutôt l'accent sur les processus, sur le mouvement, et donc montrent que l'identité n'est pas quelque chose de constitué une fois pour toutes, mais c'est quelque chose qui est en perpétuelle construction, déconstruction, reconstruction, en fonction des interactions sociales, en fonction des événements donc, rencontrés et leur vécu subjectif. Donc on est tout le temps, on est le même, mais en même temps, au mouvement, en perpétuel changement. Donc, d'où l'idée de la question de remaniement permanent. Donc, même si c'est la raison pour laquelle je ne raisonne pas en termes d'état identitaire, mais plutôt de processus identitaire. Donc, ça, c'est un premier point qui me semble important à dire pour montrer que nous ne sommes pas une somme ou un résultat fini de nos expériences personnelles, professionnelles et sociales, mais on est un processus de tout ça et donc on est au mouvement perpétuel. Donc ça, c'est un premier point. Donc par rapport au choix de raisonner en termes de dynamique identitaire et non pas d'identité. Alors, à partir de ça, ce que je voudrais maintenant, c'est décortiquer cette idée de dynamique identitaire en commençant par un point qui est l'identité est une complexité. Donc ça, c'est important. Donc ce qui fait que ce n'est pas une somme d'éléments compliqués. Ce qui est compliqué peut se résoudre avec le temps, alors que la complexité présente vraiment, comment dire, c'est plus que compliqué. Alors, si on prend la notion de complexité, au-delà de l'identité, il y a deux éléments qui caractérisent un système complexe. Et donc, je vais dire ces éléments-là pour les appliquer à la question de l'identité. Donc, la complexité, il y a deux éléments qui la caractérisent. Le premier élément, c'est la multiplicité et la variété des éléments qui composent un système. Donc, ça, c'est un premier élément donc de la complexité. C'est la variété, la multiplicité des éléments qui composent un système. Et la deuxième caractéristique de quelque chose de complexe, c'est la variété et la multiplicité des interactions entre les éléments. Donc là, un, c'est multiplicité d'éléments, et deuxième caractéristique, c'est la variété des interactions. Donc la variété des interactions qui ne sont pas que linéaires, qui sont aussi circulaires, ce qui rend encore la chose complexe. Voilà, donc ça, si on prend notre assemblée ici, on est un ensemble d'éléments, même si on est réduit. Donc si on était plus nombreux, ça complexifierait encore les choses. Et si on fait les interactions entre, déjà au sein de chaque personne avec elle-même, avec son histoire, avec ses différentes composantes, plus les interactions avec les autres, on peut tout à fait dire qu'un groupe peut être complexe donc en tant que groupe. Voilà, donc ces deux éléments de la complexité, on va essayer de l'appliquer à l'identité, donc pour que ça va pour nos amis de Trois-Rivières, donc c'est bon. Donc je vous tourne un peu le dos, mais voilà. Donc si on applique ces deux éléments de la complexité à l'identité, alors donc l'identité, ce que je propose pour voir le premier élément, donc la variété des éléments, c'est de prendre l'identité sur les trois axes. Et donc les trois axes de l'identité. Et ça, c'est des éléments qui sont développés par des sociologues tels que Dubard, que vous connaissez, et d'autres. Donc il y a trois axes au niveau identitaire. Le premier axe, c'est l'axe temporel de l'identité. Donc là, je suis en train d'appliquer la question de la complexité à l'identité. Voilà, donc je vous ai dit pour la complexité, le premier élément, c'est la multiplicité des éléments. Donc on est en train de voir les différents éléments identitaires. Hein, donc là, si on veut dire. Donc là, si on prend, donc il y a trois axes, l'axe temporel, l'axe spatial et l'axe relationnel, donc de l'identité. Alors si on prend le premier axe temporel, déjà à ce niveau-là, donc on peut voir qu'il y a l'identité ou les identités héritées. Donc là, les identités actuelles et les identités visées. Donc rien que dans cet axe temporel, on a ces trois éléments, hérités, actuels et identités visées. Et quand je dis les identités héritées, les identités actuelles, les identités visées, c'est pour montrer qu'on peut être sur différents types d'identité visée, de projet d'identité, projet familial, projet professionnel, projet d'identité sociale. Donc voilà, donc il peut y avoir plusieurs types de... la même chose au niveau des identités héritées, on peut avoir différents types d'identités héritées et la même chose au niveau des identités actuelles. Voilà, donc déjà au niveau de l'axe temporel, on peut dire qu'il y a déjà une première variété donc de dimensions identitaires. Si on prend maintenant l'axe spatial, donc là, l'axe spatial, on le mesure ou on l'étudie à partir des différents champs d'investissement, d'engagement et d'implication des personnes. Donc dans chaque champ dans lequel on se trouve, eh ben, il y a une partie de nous-mêmes qui est mobilisée. Donc ça peut être l'espace familial, l'espace social, l'espace syndical, l'espace politique, l'espace associatif, l'espace... Je veux dire, il peut y avoir plusieurs espaces et chaque espace mobilise une partie donc, de soi, donc de la personne. Donc là aussi, et d'ailleurs on peut étudier ça à partir des réseaux sociaux, donc d'engagement, donc pour voir un petit peu quels sont les différents types de groupes sociaux auxquels on appartient. Et donc effectivement, ça peut montrer aussi la richesse ou la pauvreté des réseaux sociaux peuvent aussi montrer la variété et le nombre donc d'espaces dans lesquels on est impliqué. Donc ça, c'est le deuxième axe qui est l'axe spatial. Et donc le troisième axe, c'est l'axe relationnel. Et donc cet axe relationnel, donc, c'est soi avec autrui significatif, avec toutes les personnes donc, avec lesquelles on est en lien dans les différents espaces sociaux. Donc effectivement, il y a des personnes, les autres avec lesquelles on est en relation. Et donc effectivement, il y a une partie de nous-mêmes qui est engagée à chaque fois dans la relation avec autrui. Donc voilà, donc rien qu'à ce niveau-là, on peut dire qu'il y a une variété donc, de dimensions identitaires qui composent cette complexité identitaire. Alors ça, c'est le premier élément de la complexité qui était la variété donc des composantes donc de l'identité. Le deuxième élément de la complexité, c'est la variété des interactions. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. La variété des interactions donc du système. Et donc là, on peut dire la variété des interactions entre les différentes dimensions de l'identité. Voilà, donc là, alors là, si on applique ça, eh ben, il y a toutes les interactions donc, entre l'identité héritée, l'identité actuelle, l'identité visée. Et quand on dit interaction, ben, on va revenir à un terme par la suite qui est les tensions identitaires. Ben, tout dépend de la nature de cette interaction entre ces différentes identités au niveau temporel, les différentes interactions entre les différentes dimensions spatiale de l'identité, les différentes interactions entre les éléments sur l'axe relationnel. Hein, bon, c'est clair là, ça va, voilà. Donc là, ça fait une multitude d'interactions entre les différentes dimensions de l'identité sur les trois axes. Donc là, tout ça, ça montre effectivement qu'il y a une complexité identitaire, un travail qui se fait de par même cette interaction entre les différentes parties de soi sur ces différents axes. Alors, maintenant, donc ça, c'est un premier élément qui montre tout le mouvement qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous dans sa relation à soi, dans sa relation avec autrui. Alors, ces interactions, elles peuvent être complémentaires ou elles peuvent être tensionnelles, donc des tensions entre les élèves. Donc, d'où le deuxième élément de la dynamique identitaire, qui sont les tensions identitaires. Donc là, c'est cette notion de tension identitaire, je vais revenir, parce qu'elle est importante dans la dynamique identitaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une tension identitaire ? Donc, je crois que c'est bien de revenir là-dessus. J'ai l'habitude de dire qu'on est en tension identitaire à chaque fois que dans une interaction sociale, deux parties de nous-mêmes sont activées, convoquées, mais dans une relation qui n'est pas complémentaire, c'est-à-dire qui sont exclusives. Voilà. Alors, je vais le redire autrement. Supposons que vous êtes dans une organisation syndicale, donc vous êtes représentant syndical donc, au sein de votre institution, et en même temps, vous êtes manager, vous êtes le responsable hiérarchique. Voilà, donc là, c'est deux parties de vous-même, pour qu'on ne le veuille pas, parce que vous êtes syndicaliste et en même temps manager ou responsable hiérarchique. Alors, tant que les deux parties de vous coexistent séparément, ils ne sont pas convoqués dans une même interaction, il n'y a pas de problème. Donc, on peut gérer ces différences. Mais s'il y a une grève, s'il y a un problème, et vous devez prendre une position, et vous avez devant vous et vos camarades syndicalistes, et en même temps votre responsable hiérarchique, et donc il faut trancher. Donc, dans une situation qui ne peut pas supporter une solution à mi-chemin. C'est soit avec les syndicats, soit avec la direction. Donc là, vous pouvez vous trouver dans une tension identitaire puisque les deux parties de vous sont convoquées dans une interaction sociale exclusive qui s'exclut. Je ne sais pas si vous voyez. Donc du coup, effectivement, vous êtes en tension identitaire à ce niveau-là. Tension, pourquoi identitaire ? Parce que ça remue deux parties de vous-même qui sont exclusives dans la situation. La même chose, on peut trouver, vous êtes parent d'élèves et vous avez votre enfant dans votre classe. Donc, qui va agir s'il y a un problème ? Est-ce que c'est le parent, donc la maman ou le papa, ou est-ce que c'est l'enseignante ou l'enseignant qui agit par rapport à... Est-ce que vous agissez face à un enfant, comme les autres enfants, ou est-ce que vous agissez face à votre propre enfant ? Je sais pas si, donc là, il y a une tension. Donc, est-ce que ça pose un... Ça peut être la même chose. ça peut être, vous êtes... Il y a un amant et sa femme ou une amante et son mari. Donc voilà, tant que ça se passe dans des espaces géographiques séparés, donc il n'y a pas de problème. Mais si dans une interaction sociale, tous les trois se trouvent ensemble, donc là, ça pose un problème. voilà, donc il y a une tension. Alors, il y a tension identitaire, d'une part parce qu'il y a convocation de deux parties de vous dans la situation, mais en même temps, parce que vous tenez aux deux parties de vous. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ça. Parce que si vous pouvez renoncer au syndicalisme et être avec l'employeur, le problème est résolu. Si vous renoncez à votre statut de manager et vous impliquez dans le syndicalisme, donc le problème est résolu. Donc là, il y a tension quand il y a les deux parties qui sont convoquées et en même temps, il y a impossibilité de renoncer à l'une ou l'autre partie d'entre vous, de vous. Voilà. La même chose ici aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous avaient une activité physique, sportive ou musicale quelque part et en même temps ils ont envie d'être là. Voilà, donc il peut y avoir une tension qui a été résolue par la prise de décision d'être là ou de ne pas venir, par exemple. Donc, Alors, donc ça c'est le deuxième élément, donc la question des tensions identitaires. Alors pour faire face à ces tensions identitaires, se pose la question, de comment faire pour garantir la cohérence, la cohésion de soi. Donc, puisque effectivement, les tensions identitaires, c'est important peut-être de revenir là-dessus, les tensions identitaires, il y a deux éléments importants. Elles sont en même temps constitutives de la vie, parce que, voilà, et donc elles peuvent être soit vécues de façon positive et mobilisatrice, comme elles peuvent être destructrices si, comment dire, donc il y a les deux aspects des tensions identitaires. Elles ne sont pas toujours que négatives, elles peuvent aussi être positives et porteuses. Donc, voilà, comme elles peuvent aussi, si on n'arrive pas à les supporter, si on n'arrive pas à les gérer, donc ça peut être un peu destructeur. Alors, peut-être, donc pour faire face à ces situations donc de tension identitaire, il y a l'idée de stratégie identitaire. Donc, ça, c'est. Alors, les stratégies identitaires, donc c'est important bonjour. Les stratégies identitaires, on m'a obligé de commencer à 14 heures, donc j'ai pas pu vous attendre. Hein. Alors, donc, les stratégies identitaires, donc il y a deux types de stratégies identitaires. Les stratégies identitaires discursives, donc on peut tout à fait résoudre une tension identitaire par le discours, par l'argumentation, par le fait de justifier. Donc là, il peut y avoir des discours donc, qui peuvent réduire l'acuité des tensions identitaires. Et il y a donc des actes, des comportements qui sont posés. Par exemple, le fait d'aller en formation, on le verra tout à l'heure, ça peut être une stratégie identitaire. Voilà, donc ce n'est pas seulement discursif, c'est aussi un acte posé. Voilà, donc ça c'est. Alors, donc les stratégies identitaires, donc ce sont soit les actes discursifs, soit les actes comportementaux, donc qui relèvent de l'agir, qui sont mis en place, mobilisés par la personne pour faire face donc à ces tensions identitaires. Alors, j'ai oublié un petit point en parlant des tensions identitaires. Les tensions identitaires peuvent être intrasubjectives, comme elles peuvent être intersubjectives. Donc, intrasubjective, c'est soi avec soi. Donc là, ça peut être son identité héritée avec son identité actuelle. Donc, ça peut présenter des tensions. Ça peut être son identité actuelle et son identité visée. Donc, il peut y avoir des tensions entre les deux. Je ne suis plus, comment dire, content de ce que je suis maintenant. Et je n'arrive pas encore à aller vers ce que je voudrais être. Voilà, il y a des contraintes institutionnelles, personnelles, et donc je peux vivre une tension interne, donc intra-subjective, comme ça peut être des tensions intersubjectives avec autrui significatif. Par exemple, j'ai envie de changer de métier et par là même donc de statut social professionnel et donc par là même donc d'identité donc et être dans une nouvelle identité professionnelle et mon patron ma patronne veulent que je reste là où je suis par exemple et donc du coup il peut y avoir une tension identitaire entre le projet de soi sur soi et le projet d'autrui sur vous-même. Donc là, il peut y avoir. C'est la même chose par rapport aux enfants. Ils peuvent vivre une tension identitaire si les parents ont un projet sur eux qui ne correspond pas au projet qu'ils ont eux-mêmes sur eux-mêmes. Donc là, il peut y avoir effectivement une tension intersubjective. Et donc, d'où toutes les stratégies aussi qui peuvent être soit vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses propres tensions, ou vis-à-vis des tensions qu'on a avec les autres. Alors, donc ça, c'était le premier point concernant donc la question des dynamiques identitaires. Alors, je ne sais pas, Colette, si on ouvre un petit moment de réflexion maintenant ou est-ce qu'on continue?
Est-ce que vous êtes d'accord pour que Mortar aille au bout peut-être de sa présentation? Peut-être bien, puis on fera une discussion quand même.
D'accord.
Sur l'échange de questions.
Très bien, voilà. Alors, donc le deuxième point, donc c'est une typologie donc des dynamiques identitaires. Donc, comment dire, j'ai conduit plusieurs recherches avec différents types de publics. Donc, je vais donner quelques exemples. Et c'est à partir de ces différentes recherches que j'ai pu donc constituer donc cette typologie des dynamiques identitaires. Alors, Il y a plusieurs recherches, dont quatre ou cinq significatives. Donc, je ne vais pas les présenter, mais seulement les nommer pour vous montrer un peu d'où viennent ces typologies. Donc là, une première recherche que j'ai menée, c'était en 1983-84, c'était auprès de salariés licenciés du secteur automobile. Donc il y avait toute une vague de licenciements assez importante donc dans les années 80. Et donc j'avais interviewé un ensemble donc, de salariés licenciés à qui on avait proposé donc, de la formation. Donc là, c'est une première recherche qui a servi de base. La deuxième recherche importante, c'est toutes des recherches qui ont duré plus d'un an. Donc c'est un an, deux ans, il y a même certains trois ans. Donc là, la deuxième recherche, c'était dans une entreprise dans le secteur agroalimentaire qui était, comment dire, la direction a décidé de garder l'ensemble du personnel en détruisant l'ancienne entreprise, construisant une nouvelle entreprise et informatiser l'ensemble des circuits de production et informatiser la gestion. Donc là, en gardant le même personnel. Donc là aussi, j'ai séjourné dans l'entreprise et j'ai fait plusieurs entretiens à différents niveaux, donc des OS, des ouvriers spécialisés, professionnels, des agents maîtrise, des cadres. Donc c'était ça a duré plus de deux ans. Et une troisième recherche, c'était avec les enseignants de l'éducation nationale donc en France. Tout ça, ça se passe en France. Hein. Donc c'est des enseignants de l'éducation nationale qui sont engagés dans ce qu'on appelle là-bas des pratiques innovantes. Donc il y a un programme national d'innovation et donc ce sont des équipes qui ont contracté donc avec le ministère et elles s'engagent dans des pratiques innovantes. Et donc l'étude portait sur le rapport entre la construction de l'identité professionnelle et l'engagement dans l'innovation. Donc là aussi c'est une troisième étude. Une quatrième étude qui était aussi importante et fondatrice pour moi, c'est une recherche avec les inspecteurs du travail donc en France. Et je donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais c'est une recherche fondatrice dans le sens où elle m'a permis de voir le lien entre le métier et la construction de l'identité professionnelle avec la question de l'engagement en formation, mais je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Peut-être une autre recherche avec les médecins inspecteurs de la santé publique. Et une dernière, c'était avec des étudiants en reprise d'études de master, donc qui s'engagent dans un master. Pour certains, vont vers le doctorat. Pour d'autres, ont le master et s'arrêtent là. Donc, c'est à partir de toutes ces recherches, plus des observations par-ci, par-là, donc, que j'ai pu constituer cette typologie. Donc là, toute typologie, par définition, réductrice donc du réel, elle ne correspond pas au réel. Donc, puisque le réel est plus têtu et plus complexe que n'importe quelle typologie. Donc prenez-la plutôt comme avec sa valeur heuristique et non pas, en soi. Hein, donc voilà. Deuxième remarque, ces typologies ne sont pas exclusives. C'est-à-dire on n'est pas que dans une typologie ou dans un type de dynamique. On peut en fonction de nos engagements, être dans plusieurs dynamiques identitaires. Donc ça, c'est important. Donc il n'y a pas une exclusivité, mais peut-être par moment être dans deux ou trois dynamiques identitaires. Donc voilà. Alors c'est cette typologie que je voudrais donc vous présenter avant de revenir pour voir le lien avec l'engagement en formation. Donc la première typologie, je l'ai appelée les dynamiques d'entretien identitaire. Donc, les dynamiques d'entretien identitaire. Alors, il s'agit là de personnes qui sont contentes de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont, et pour rien au monde, elles n'ont envie de changer. Donc là, à la rigueur, on peut dire que l'identité actuelle correspond à l'identité visée. Ce qu'ils voudraient être, ils le sont déjà. Donc là, alors, il peut y avoir une illusion, hein, donc voilà, mais en tout cas, c'est le sentiment qui se dégage. Donc, c'est des personnes qui sont, voilà. Donc là, c'est une première dynamique identitaire. Et c'est vrai que je l'ai rencontré chez des cadres de haut niveau, qu'on peut qu'on peut nommer les qui sont dans ce que Claude Dubar nomme l'identité d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui ont épousé les idéaux de leur institution et à la rigueur, ce qu'ils font, ils ont l'impression de le faire que pour eux-mêmes, même s'ils le font dans le cadre d'une institution. Je sais pas si, donc là, c'est, le projet institutionnel et le projet personnel sont tellement imbriqués et complémentaires qu'il n'y a, je veux dire, c'est des personnes qui calculent même pas. Elles travaillent chez elles, elles ont l'impression de ne travailler que pour elles-mêmes, alors qu'elles ne font que travailler pour les autres. Je sais pas si vous, donc là, c'est vraiment une. Je l'ai rencontré aussi chez des enseignants de l'éducation nationale qui sont impliqués dans l'innovation, dans des pratiques innovantes. Et souvent, ce sont des enseignants qui, auparavant, étaient des militants pédagogiques dans le milieu associatif, dans des institutions alternatives. Et à un moment donné, ils ont saisi l'occasion de rentrer dans l'éducation nationale. Et ce qu'elles faisaient avant, elles ont continué à le faire au sein de l'éducation nationale en exploitant cette idée de pratique innovante. Donc là, il y a la rigueur, ce qu'ils font ou ce qu'elles font avec les élèves, avec les collègues, voilà. C'est dans une continuité de ce qu'ils faisaient avant. À la rigueur, ils ont l'impression d'utiliser l'institution pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, effectivement, il y a... Et quand on leur pose la question s'ils ont envie de changer, s'ils ont envie de... Ils disent, pour rien au monde, je ne quitterai mon boulot. Je veux dire, hier, on était à Sherbrooke avec Colette, donc je ne vais pas nommer la personne qui a dit ça. Mais à un moment donné, on a rencontré quelqu'un dans les couloirs et il y avait une discussion sur le congé sabbatique. Et donc la personne a dit... Ben non, moi, je n'ai pas besoin de prendre d'année sabbatique parce que j'aime beaucoup ce que je fais. C'est-à-dire, elle avait l'impression, en tout cas, elle donnait l'impression d'avoir un plaisir dans ce qu'elle fait et donc elle n'a pas envie de prendre une année sabbatique. C'est une perte de temps pour elle, une année sabbatique, parce qu'elle était complètement dans... En tout cas, c'est l'idée que je retiens. Hein, donc, voilà, donc c'est un exemple. Voilà. Les deuxièmes... dynamique identitaire, j'ai appelé ça... Alors, pourquoi je l'ai appelé dynamique d'entretien identitaire? C'est tout bête. J'intervenais pas mal en Martinique il y a longtemps de ça. Et à un moment donné, donc, je prenais l'avion pour partir. Donc, c'est une petite parenthèse pour vous laisser un peu souffler. Hein, voilà. Donc, on était dans l'avion, et il y avait un monsieur à côté de moi. Donc, comme ça fait 6h30 donc, de voyage, bon, même si on lisait, à un moment donné, on commence à parler. Et donc, on arrive à la question, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc, alors la question, quand je lui ai posé, donc il m'a demandé ce que je faisais, donc je lui ai raconté. Et à un moment donné, je lui ai dit, et vous, alors qu'est-ce que vous faites? Ben, il m'a dit, ça m'a vraiment, il m'a dit, je fais ce que je suis. Ah bon? Donc je me suis dit, tiens, alors j'ai commencé un peu à lui poser la question. Et donc c'est un grand musicien, et donc qui allait donc en Martinique au conservatoire, et donc ils enseignaient ses œuvres. Je sais pas si, c'est-à-dire, il y avait le faire et l'être étaient tellement imbriqués que, voilà, donc... Et donc, dans la discussion, et ben, voilà, donc je me suis dit, ça, c'est vraiment ce qu'il fait, c'est l'entretien de... voilà, donc... Alors, donc, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant d'appeler ça. Alors, et quand je l'ai rencontré chez d'autres, chez les enseignants, chez des cadres, donc c'est devenu une idée de dynamique d'entretien identitaire. Donc, c'est comment entretenir soi, ce qu'on fait et qui renvoie au soi. Et donc, voilà, donc c'est... C'est pour ne pas être dans l'obsolescence. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est faire des choses pour entretenir. Voilà, donc là, comme on entretient des connaissances, on entretient aussi son identité et son soi. Alors, deuxième dynamique identitaire, donc c'est les dynamiques de préservation identitaire. Donc là aussi, ce qu'il faut retenir, c'est la même logique, c'est la même dynamique que la première, que les dynamiques d'entretien, parce qu'il y a l'idée de préserver, de maintenir et de continuer, sauf que la différence est importante entre les deux. Dans le premier cas, la personne a les ressources cognitives, affectives, matérielles, tout ce qu'on veut, pour être autonome dans l'entretien de son identité, alors que dans le deuxième cas, la personne est tributaire du bon vouloir de quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous... Donc c'est vraiment ça la différence, c'est que j'ai, pour rien au monde, j'ai envie de changer, j'ai envie de continuer de faire, d'être ce que je suis, sauf que je dépends de quelqu'un d'autre pour l'entretien et le maintien de cette identité professionnelle ou personnelle qui me plaît, dans laquelle je me sens bien. Et là, alors, par exemple, on peut le trouver chez des personnes qui sont dans des fonctions, des missions fonctionnelles. Donc là, qui sont, c'est-à-dire dans une entreprise, dans une institution, c'est des chefs de projet, c'est des conducteurs. Donc on est dans le fonctionnel, et donc ça dure des années, et à la rigueur, on se construit une identité à partir de ça. Donc, sauf que on s'est pas institué en tant que tel. Je sais pas, et donc ça dépend du changement de direction, ça dépend. Donc du coup, on peut du jour au lendemain revenir à la case de départ. Ça peut être des personnes qui font des remplacements. Voilà, donc, et un remplacement qui dure longtemps parce que la personne qu'on remplace, elle est partie à un moment donné, elle devait venir, elle n'est pas revenue. Donc du coup, on prend goût donc à ce qu'on fait, et donc il y a une certaine identité qui se structure autour de ce poste à remplacement, mais qui dure. Voilà. Sauf que on est tributaire du bon vouloir de quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, ça risque de voilà. Donc là, la préservation identitaire, c'est comment préserver son identité actuelle, sachant que on est tributaire dans son maintien et dans sa préservation du rapport avec autrui. Hein. Donc c'est vraiment voilà. Donc ça, c'est une deuxième dynamique. Troisième dynamique, ce sont les. Je vais aller un peu vite pour laisser le. J'ai même pas vu. Tu me donnes combien de temps encore? Ah ben donc il faudra. Ouais. Bon, rapidement. Non. Alors, troisième dynamique, c'est les dynamiques de transformation identitaire. Donc là, effectivement, c'est l'idée de. Il y a une tension, un décalage, un écart entre l'identité actuelle et l'identité visée. Donc, du coup, ça montre que les personnes ne sont pas bien là où elles sont, et donc elles sont dans une dynamique de transformation identitaire, et donc la quête d'une nouvelle identité. Voilà, donc ça, c'est une troisième. La quatrième, c'est, je vais appeler les dynamiques de confirmation identitaire, et je crois que c'est important, cette dynamique, parce qu'elle peut correspondre à pas mal de gens. Confirmation identitaire, c'est les personnes sont... Je veux dire, il y a une image de soi positive, il y a, on est content de ce qu'on est, sauf que cette identité n'est pas reconnue par autrui significatif. Je veux dire, il y a un problème de reconnaissance. Donc du coup, toute la dynamique consiste à comment faire pour confirmer cette identité acquise, mais qui n'est pas reconnu ou suffisamment reconnu par autrui significatif. Autrui significatif, la personne ou l'institution ou la structure dont on dépend. Et voilà. Donc là, et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se trouvent dans cette situation. Et ils ont la fonction, mais ils n'ont pas le diplôme, par exemple. Je sais pas, il y a un moment donné, il y a un problème de reconnaissance. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle s'engager en formation peut être non pas pour apprendre, mais pour avoir le diplôme correspondant à la fonction et faire reconnaître l'identité professionnelle dans laquelle on est déjà installé. Je sais pas si, donc, alors, la cinquième dynamique, donc il reste, ça va être rapide, les dynamiques de reconstruction identitaire. Donc, dans la reconstruction identitaire, il y a l'idée de blessure. Donc là, c'est quelqu'un qui a été blessé au fin fond d'elle-même. Alors ça peut être, par exemple, une personne qui a occupé un poste important dans une institution, et donc il y a un changement radical de la direction, de l'orientation et de la politique institutionnelle, elle se trouve au brancard, donc complètement reléguée. Voilà. Et donc du coup, ça peut être une blessure importante. Et donc toute la dynamique, c'est comment se reconstruire, et donc reconstruire une identité blessée. Donc ça. La sixième, après ça va être vite, je l'ai appelé les dynamiques de redéfinition identitaire. Alors, quand on est dans cette dynamique de redéfinition, ça veut dire qu'à un moment donné de sa vie, on se trouve dans une situation dans laquelle tout ce qui structurait le sens de la vie peut je m'excuse du terme, fout le camp. Donc il n'y a plus. Il n'y a plus qui. Voilà. Et donc, ça peut être des personnes qui ont élevé leurs enfants, et à un moment donné, donc, les enfants partent et le couple se sépare. Alors que ce sont les enfants qui ont structuré toute la vie familiale à un moment donné. Voilà. Et donc, ils se trouvent face à eux, tous les deux. Et après, donc, il y a une cassure. Et voilà. Donc, tout ce qui a été le fondement de, comment dire, de la personne, fout le camp. Donc là, effectivement, il y a ce problème de... Donc, la question, c'est que vais-je faire de moi ? Donc, c'est ça. Et donc, l'idée de que, quoi faire de soi, ça pose la question de la redéfinition de soi. Donc, de voilà. Alors, ce qui veut dire, quand on parle de redéfinition, ça veut dire qu'il y a le sens qui est cassé, mais en même temps, il y a l'espoir. Donc, il y a l'envie de faire quelque chose de soi. Je sais pas, c'est ça qui est important dans la redéfinition. Les deux conditions sont importantes. C'est un moment, il n'y a plus qui tient, tout ce qui tient fout le camp, mais en même temps, il y a l'envie de faire quelque chose de soi. Donc, s'il n'y a pas les deux, ça, on bascule dans les deux dernières dynamiques identitaires. Une que j'ai appelée les dynamiques de destructivité identitaire, c'est quelqu'un qui se laisse mourir, voilà, mais se laisse détruire donc, dans un processus de destructivité. Ça peut être la drogue, ça peut être, voilà, donc ça peut être se laisser aller. Et la dernière, c'est les dynamiques d'anéantissement identitaire. Et donc là, effectivement, le soi ne peut plus tenir, donc il n'y a plus rien qui tient, et c'est le fait de mettre fin à sa vie. Voilà, donc ça c'est... Voilà, donc ce sont les différentes dynamiques identitaires. Alors peut-être pour aller vite maintenant revenir sur le rapport à la formation, donc et après on pourra revenir sur la réflexion. Donc le rapport à la formation, donc là je vais rapidement... Donc il y a six types de rapports. Donc on va les voir rapidement et après on peut revenir dans la discussion. Donc le premier rapport, je l'ai appelé le rapport d'engagement. Donc le rapport d'engagement dans la formation. Alors là il y a deux types d'engagement. Il y a le premier engagement, je l'ai appelé engagement autonome. L'engagement autonome et l'autre c'est l'engagement soutenu. L'engagement autonome, c'est à chaque fois que la personne n'arrive pas à avoir le soutien de l'autrui significatif. Donc là, soit son institution, soit sa hiérarchie, soit sa famille, soit son conjoint ou sa conjointe. Donc en tout cas, et à la rigueur, c'est un défi qu'il lance. Et donc, il se lance dans la formation malgré tout les... Donc là, il a un engagement autonome. Ce qui veut dire qu'il faut avoir les moyens pour s'engager. Et par exemple, moi au CNAM, donc à Paris, il y a plusieurs salariés qui me disent, eh ben, je suis là, mais clandestinement. Donc là, mon employeur n'est pas au courant, c'est pourquoi je viens au cours du soir. Et donc, vraiment, ils nous demandent de ne pas dire qu'ils sont là. Je sais pas, parce qu'effectivement, ils préparent, avec cet engagement autonome, ils préparent l'engagement dans une dynamique de transformation identitaire. C'est-à-dire qu'ils veulent quitter leur entreprise et ils sont plus contents de ce qu'ils font. Voilà. Mais donc, ils se donnent les moyens. Donc là, le projet de l'identité pour soi et l'identité pour autrui présente des écarts, puisqu'effectivement, il n'y a pas de soutien. Alors, il peut y avoir l'engagement, toujours dans le rapport d'engagement, l'engagement soutenu. Là, il y a une cohérence entre l'identité pour soi et l'identité pour autrui. Donc, j'ai envie de me former. Mon employeur est d'accord avec moi. Et donc, il y a un contrat. Et effectivement, donc, c'est un engagement soutenu. Donc, voilà. Voilà. Donc, là, on trouve cet engagement soutenu quand il y a cohérence entre identité pour soi et identité pour autrui. Le deuxième rapport, c'est le rapport de désengagement. Le rapport de désengagement. Donc là, ça veut dire que la personne s'est engagée en formation et à un moment donné, elle veut mettre fin donc, à son engagement. Donc il y a un désengagement après un engagement. Et donc, alors, on se retrouve dans cette situation, en tout cas, il peut y avoir mille et une raisons, mais par rapport aux aspects identitaires, c'est à chaque fois que la personne sent que la formation est comment dire, est en train de... Derrière la formation, il y a un projet de conversion identitaire. C'est-à-dire que je me suis engagé dans la formation, mais je sens que dans cette formation, le projet de l'institution, le projet des formatrices et des formateurs, en réalité, va entrer en collusion avec ma propre dynamique identitaire. Et donc, il risque d'y avoir une conversion identitaire. Et donc, je résiste à cette conversion identitaire qui est sous-jacente à l'offre de formation. Et donc, je me désengage. Voilà, donc ça c'est, par exemple, moi je le sens avec au niveau du master, donc je suis pas l'équivalent d'ici, c'est le master 2, c'est bac plus 5, voilà. Donc là, donc c'est un master de formation à la recherche, et c'est des professionnels qui s'engagent dans ce diplôme de formation à la recherche, donc pour plutôt pour aller vers le doctorat, le PhD chez vous, et ils se rendent compte qu'il y a une tension entre la posture d'acteur social et la posture de chercheur, puisqu'on les forme à avoir une posture de chercheur et non pas d'acteur social. Je sais pas si... Et donc, toute la formation est basée là-dessus. C'est comment transformer ou aider des professionnels à s'engager dans une démarche de recherche académique et non pas dans une démarche de résolution de problèmes ou d'action. Et donc... Puisque ça s'appelle master formation d'adultes, il y a peut-être déjà un malentendu à ce niveau-là. Ils viennent pour se former et devenir professionnel de la formation. Ils se rendent compte que, en réalité, c'est une posture de chercheur et non pas une posture d'acteur social. Et donc, ils se désengagent de la formation parce qu'ils n'ont pas envie de s'engager dans une démarche de chercheur académique. Vous voyez, donc, donc il y a un désengagement. Alors. Donc, il peut y avoir trois types de désengagement. Rapidement, soit l'abandon de la formation, c'est la personne a les moyens d'abandonner. Soit la personne est obligée de rester en formation, donc il y a un désengagement affectif. C'est-à-dire, on est présent, mais en réalité, moi, il y a des personnes qui étaient obligées d'être parce que leur entreprise les oblige à y être. Ben, ils disent considérer comme si je n'étais pas là. Voilà. Donc moi, ce n'est pas contre vous, ce n'est pas contre vos formateurs, mais voilà, moi je suis obligé d'être là, mais en réalité, je n'ai pas à être là. Donc il y a un désengagement affectif, parce qu'ils ne peuvent pas partir. S'ils partent, ils peuvent être licenciés ou chassés de leur entreprise. Voilà. Et il y a le désengagement conflictuel, c'est quand les apprenants se liguent, se concertent, ils arrivent à constituer une force d'opposition. Ils peuvent tout à fait se confronter à l'institution pour changer le fondement même de la formation. Donc c'est un désengagement, mais plutôt conflictuel. Alors, troisième type de rapport, c'est je l'ai appelé le rapport de contingence. Donc là, il y a une ambivalence entre s'engager dans la formation, de se désengager. Et là, on le trouve chez des chômeurs, de personnes demandeuses d'emploi, donc des chômeurs, en quête d'identité de salariés. C'est-à-dire, ils s'engagent en formation, et donc tant que la formation les rapproche de l'identité de salariés, donc voilà, d'ailleurs, ils cherchent des terrains pour les mémoires, mais en réalité, c'est pas la recherche, c'est plutôt comment entrer dans une entreprise par l'intermédiaire de l'enquête et le mémoire pour trouver une place. Et donc, et quand ils voient que ça, c'est possible, et bien, ils peuvent abandonner la formation parce qu'ils veulent avoir une identité de salarié. Quand ça ne marche pas au niveau de l'entreprise parce qu'on leur dit, ben non, il n'y a pas de... Donc, ils reviennent, ils se réengagent en formation. Donc, c'est vraiment la contingence et l'ambivalence entre se former, ne pas se former. Parce que, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui, vraiment, c'était très fort. Je suis mal organisé, mais si je le trouve, je vous le dirai. Oui, voilà. Donc, il me disait dans un entretien, voilà, il me dit, je ne peux pas me situer sur deux champs de préoccupation, les études et la recherche d'emploi. C'est difficile pour moi d'être à l'aise en formation si je ne le suis pas sur l'emploi, la priorité étant de bouffer. Oui, donc c'est vraiment c'est un extrait d'entretien pour montrer un petit peu cette contingence, quoi. Donc il est sur les deux, mais il y a une priorité, c'est la quête d'une identité de salarié, quoi. Voilà. Alors le rapport d'indifférence, je l'ai appelé comme ça, mais ça peut être appelé autrement, c'est toutes les personnes qui ne voient pas d'utilité de formation dans leur projet d'identité. Voilà, donc il n'y a pas de demande de formation. Quand on leur dit pourquoi vous n'allez pas en formation, ben, ils disent ça me sert à quoi, j'en ai pas besoin. Donc là, c'est un rapport d'indifférence. Le cinquième rapport, c'est le rapport d'hostilité. Je vais rapidement, mais pour qu'on puisse discuter un peu. Le rapport d'hostilité, donc là, c'est avant même que la formation ne démarre, les personnes peuvent être hostiles et dénoncer la formation. Je vais vous donner un exemple rapide. C'était dans l'entreprise d'agroalimentaire dont vous parlez tout à l'heure. Il y avait deux secteurs. Il y avait un secteur bovin et un secteur porcin. Donc c'était le porc et le bœuf dans cette entreprise agroalimentaire. Et dans le métier de la viande, c'est le bœuf qui est le métier noble. Voilà, donc ça, c'est la noblesse du métier. Et le porc est considéré comme les gens qui travaillent dans le secteur porcin, c'était les moins nobles, parce que la bête est moins noble que le bœuf. Et donc l'entreprise en question, elle a détruit toute l'entreprise et a construit la nouvelle entreprise en gardant tout le personnel, mais en étant dans une monoproduction, c'est-à-dire c'est se centrer sur le porc. Voilà, et donc ils ont annulé toute la filière bovine. Et donc ils voulaient envoyer les gens en formation, et tout le monde, pour se former pour la nouvelle entreprise. Donc les gens qui étaient dans le porc, c'était en continuité, il n'y avait pas de problème. Mais les gens qui étaient dans le bœuf, massivement, il y avait trois attitudes. Une attitude des gens qui ont dit, nous, puisque c'est comme ça, on part. Donc ils ont quitté, parce qu'ils ne voulaient pas être rabaissés à travailler dans le porc, donc ils sont partis. D'autres qui se sont engagés dans le mouvement syndical pour dénoncer le projet et en même temps dénoncer la formation, parce qu'ils sentaient que derrière la formation, il y avait une conversion identitaire, puisqu'on veut qu'ils changent de métier, donc de posture, de profession. Et des gens qui étaient minoritaires, qui ont accepté en disant, j'y vais, mais je sais que je vais être le dernier je vais avoir aucune valeur, puisque ceux qui vont avoir la valeur, c'est déjà les gens qui sont sur place. Et nous, il n'y aura rien pour nous, quoi. Donc c'est pour montrer un petit peu cette résistance à la formation et en même temps sa dénonciation. Et le dernier rapport, je l'ai appelé le rapport en construction, le rapport en formation, mais c'est un rapport en construction. C'est des personnes qui n'ont pas de projet de formation, qui se trouvent par hasard, des rencontres, parce que des amis, on leur en parlait, parce qu'ils se trouvent dans des formations. Et l'idée, c'est le rapport à la formation se construit chemin faisant. C'est-à-dire qu'ils découvrent, soit ils s'engagent parce que ça leur a donné du goût, et donc ils s'engagent, soit effectivement ils disent, non, c'est pas fait pour moi. Mais en tout cas, c'est un rapport en construction, quoi. Donc c'est, voilà. Alors, voilà, donc c'était ça. Il y avait deux ou trois éléments en conclusion, mais je vais les garder pour la discussion. Sinon, depuis tout à l'heure, Colette me regarde d'un air... Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Je peux bouger un peu ou pas? Ah, c'est pas bon alors. C'est un peu confondant. Comme quoi, il ne faut jamais prendre d'initiative. Oui. Alors c'est une question. c'est vraiment une question importante. Peut-être un préalable avant de vous répondre, parce que qu'est-ce qui fait dire à un chercheur qu'un acte ou un discours posé par un sujet interviewé relève de l'identité? Donc là, c'est vraiment une question importante. Donc qu'est-ce qui dit, qu'est-ce qui peut autoriser, même d'un point de vue éthique, qu'est-ce qui peut autoriser de dire, eh bien ça, ça relève de, comment dire, d'un discours identitaire. Donc là, c'est une question importante. Alors peut-être pour répondre, je fais, comment dire, les linguistes font la différence entre l'indice et le signal. Donc l'indice et signal. Le signal, il y a une intention derrière de comment dire, de manifester une intention, de dire quelque chose. Et l'indice, c'est l'indice, il n'y a pas d'intention derrière, mais c'est à nous de détecter l'intention qu'il y a derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Donc l'indice, on peut dire, eh ben, ça, ce sont des indices de quelque chose, mais cet indice, c'est ce qu'on peut appeler une inférence. C'est le chercheur qui infère. Donc on dit, ben voilà, ça, ça peut effectivement vouloir dire, c'est un lien entre ça et l'image de soi, ça peut avoir... Alors que le signal, c'est une intention. Donc on peut dire aussi que dans le champ de l'analyse de l'identité, on a des signaux identitaires. Donc la personne vous dit clairement, eh ben, je fais ça parce que j'en ai marre d'être dans cette situation qui a détérioré mon image de moi-même, de mon estime, et donc j'ai envie d'améliorer mon image de moi, mon estime de moi, avoir plus confiance en moi. Et voilà. Donc là, c'est un signal identitaire. Pourquoi ? Parce que l'intention de faire quelque chose de soi est contenue dans le discours. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc là, donc il y a une intention identitaire ou ce qu'on peut appeler un acte identitaire qui est exprimé directement par le discours de la personne. Et donc il peut y avoir aussi des indices identitaires que c'est le chercheur, en fonction de son appareillage théorique, à partir de son expérience, de sa problématique, eh bien, il peut dire là, ce sont des indices identitaires. Donc ça peut être vestimentaire, ça peut être, comment dire, la cuisine, ça peut être la musique, ça peut être des éléments qui peuvent donner des indices que l'on peut inférer comme étant identitaires. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc c'est à partir de ça, moi, que j'ai essayé de comment dire, donc dans nos matériaux, il y a deux types. Il y a des discours qu'on peut dire identitaires parce que la question que je pose, elle pousse la personne à parler de soi. Et il y a des discours qui ne sont pas forcément de l'ordre de l'identité dite intentionnellement. Et c'est mon travail. Alors ça pose toute la question de quel droit, quelle légitimité. Et c'est là où il y a toute la question du cadre théorique qui peut jouer un rôle. Donc ça, c'est une façon un peu de répondre. Et par contre, la typologie, parce que là, ce que je vous ai présenté, ce n'est pas une typologie liée à une recherche, c'est une typologie à travers les différentes recherches. Ben là, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est toutes les typologies successives que j'ai pu construire autour de chaque recherche, j'ai relu l'ensemble pour reconstituer. Donc, et là, ce que je vous ai présenté, en réalité, c'est pour la clarté de l'exposé. Mais en réalité, le tout, j'ai réduit le tout à quatre dynamiques identitaires. Donc avec les dynamiques de... La première, ce sont les dynamiques de continuité identitaire, dans lesquelles il y a les deux, entretien et préservation. Vous vous souvenez, donc là, pour moi, c'est les dynamiques de continuité. Il y a un deuxième type de dynamique identitaire, c'est les dynamiques de transformation. C'est là où il y a changement, rupture, voilà, donc quête d'une nouvelle identité. Et la dynamique de redéfinition, de reconstruction et de confirmation, je les ai appelées les dynamiques de gestation identitaire. Ce n'est pas gestion, hein, c'est gestation identitaire. C'est en gestation, donc là j'ai tout mis ensemble. Et les derniers, c'était les dynamiques d'anéantissement identitaire, donc par rapport à tout ce qui était plus vers la destructivité, l'anéantissement de soi. Voilà. Donc, bon, mais c'était pour ne pas compliquer les choses. Voilà.
Deux autres questions ici.
Rien ne vous empêche aussi d'échanger. Hein. Donc, il y a aussi des spécialistes par là-bas. Hein. Donc, Liliane, entre autres.
Donc, ce que j'ai bien retenu, c'est que vous avez choisi d'analyser et de traiter le concept d'engagement en rapport avec l'identité, bien qu'il y a d'autres. En fait, ce que moi j'ai appris dans la littérature, d'ailleurs, vous verrez sur Internet. Il y a d'autres, une autre alternative, c'est selon la motivation, avec carré, etc. Et moi, je travaille sur ça présentement et j'ai toujours cette difficulté. Comment opérationner? La limite de cette approche que j'ai appris, mais vous êtes spécialiste, c'est que l'identité, c'est un processus très long, difficilement, et sur l'histoire. Moi, je le pense, c'est difficilement qu'on peut le changer. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, il y a un peu d'hérité, mais entre guillemets, mais il y a surtout l'histoire, c'est ça. Donc, se construit, ça rejoint aussi un peu l'interactionnisme. Je pense à Malo, quand j'ai lu votre thèse, j'ai trouvé un petit peu, c'est que c'est l'environnement, c'est l'histoire, et c'est pas seulement, ça vient pas de toi, et après, il y a réflexion sur soi-même. Ma question, moi je suis d'accord, pour ça, ça influe beaucoup sur les processus d'engagement. C'est l'histoire de toi, en fait, si on veut dire, comment tu vois ça, tes objectifs. Mais du point de vue opérationnel, si je peux résumer, le ministère m'a confié de faire une formation pour les enseignants. Je dois faire des activités, même si je fais sur une longue période, une année, ok, analyse pratique, etc. Mais comment je peux résoudre ce problème d'engagement selon votre cadre, que ce que je trouve difficile à opérationner, c'est très difficile de changer l'identité d'une personne, et il y a beaucoup de désengagement. Comment moi je peux intervenir? Quand je dis quels sont les organisationnels de la formation continue, quels sont les apprentissages, quelles sont les activités, quelles sont les relations que je dois entretenir avec les professionnels pour que j'augmente leur engagement. Je ne sais pas si
c'est clair. C'est une question très légitime, sauf que la posture que moi j'ai dans mon travail, en tout cas de recherche, c'est plutôt une posture qui n'est pas prescriptive, ni normative, ni de prescription d'action, de comment faire. Voilà. Donc je suis plutôt sur le pourquoi et non pas sur le comment. Donc c'est plutôt des outils intellectuels d'intelligibilité des comportements et des situations, et non pas des outils de mobilisation et de résolution de problèmes. Donc ça, en tant que chercheur. Par contre, même s'il y a un lien entre la recherche et l'action, si on a une autre posture, plutôt une posture de consultant, une posture de praticien qui doit faire face à une commande sociale, là, moi, si j'étais à votre place, mais chacun, je ne sais pas si c'est une solution, déjà, je commencerais par l'analyse de la demande. C'est-à-dire, pourquoi le ministère a envie de changer l'identité des personnes? Déjà, il y a tout ce travail-là sur le sens de la demande. Peut-être que je vais me rendre compte que ce n'est pas les gens qu'il faut changer, mais c'est au niveau du ministère. Parce que ce qu'ils proposent comme projet de formation ne tient pas compte des situations réelles. Et donc, du coup, voilà. Mais ça, il faut avoir la légitimité en tant que consultant pour oser interroger le fondement d'une demande institutionnelle. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est, voilà. Donc là, alors, supposons que l'analyse de la demande montre effectivement que je peux être d'accord avec cette demande parce qu'elle correspond à une situation dans laquelle il y a un changement souhaité et par le ministère et par les personnes et tout ça. Après, donc, je vais vers les personnes pour comprendre pourquoi ils ne veulent pas aller en formation. Donc là, parce que la non-demande, moi je la traduis comme demande. C'est-à-dire, la non-demande de formation, ça peut être une demande d'une autre nature, ça peut être une demande d'une autre formation et non pas de celle-ci. Donc la non-demande de formation ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de demande. Mais peut-être que la demande réelle de ces personnes n'a pas trouvé les conditions objectives et subjectives pour. Donc là, il y a tout un travail d'enquête pour saisir les motifs, non pas de l'engagement, mais les motifs de non-engagement. Parce que le non-engagement, c'est un rapport à la formation. Je ne sais pas si vous. Donc ça peut être un rapport d'hostilité. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, bien, peut-être que les gens ont raison. Ils ne veulent pas aller en formation parce que. Comment dire, la formation n'a pas de sens pour eux tant qu'il n'y a pas un changement à un autre niveau. Et donc, du coup, ça aide. Ouais, je ne sais pas si vous voyez le. Voilà, donc là. Donc, moi, dans mes formations des professionnels, je cultive beaucoup la résistance à la demande institutionnelle. La résistance, pas dans le sens qu'il faut la. C'est de ne pas y répondre à la lettre. C'est. Peut-être que ce n'est pas un problème de formation, c'est un problème organisationnel, c'est un problème d'une autre nature. Quoi. Donc c'est. Alors je ne sais pas si ça vous aide un petit peu, mais c'est. Voilà. Et c'est vrai que là maintenant, le travail de recherche vient éclairer pourquoi les gens ne s'engagent pas. Donc ce n'est pas pourquoi il faut qu'ils s'engagent, mais pourquoi ils s'engagent et pourquoi ils ne s'engagent. Donc on est plutôt dans une démarche, une posture d'intelligibilité et de compréhension des choses qui peuvent aider à aller plus loin, donc comment faire pour. Mais voilà, donc c'est une façon un peu de répondre à votre question. Voilà. Je connais bien les travaux donc, de Philippe Carré, donc intrinsèque, extrinsèque, et tous les 7 ou 8, voilà, donc voilà. Voilà, donc on se connaît bien, on s'estime bien, mais c'est une autre façon. Je veux dire, comment dire, moi je crois qu'il faudra. Ce qui est important dans la recherche, c'est d'avoir les différents niveaux d'analyse et d'appréhension du réel. C'est-à-dire, on est tous quelque part déformés par parce que nos théories, ce sont des artefacts, quoi. Donc, si on mobilise des théories, peut-être que demain, si je change de cadre théorique, je pourrais tenir un autre. Mais je suis là-dedans Donc, c'est pour dire que le cadre théorique est pour quelque chose dans l'influence du regard et de l'approche. Que le chercheur. D'où l'importance effectivement du travail interdisciplinaire parce que ça aide à relativiser sa propre appréhension du réel et ça aide à dire eh bien, il y a d'autres approches du réel et c'est ce travail collaboratif qui aide aussi effectivement à. Voilà. Donc c'est.
Merci, Martha, pour cette présentation. Toujours bien éclairante. Alors, ma question sera en deux volets. Le premier volet qui porte dans quelle mesure la typologie que tu proposes, permets-moi, est liée au contexte de la formation des adultes. Donc, avec des adultes, premièrement, mais des adultes qui ont déjà une identité professionnelle et qui reviennent en formation, qu'on retrouve. Donc, est-ce qu'on peut la généraliser ou est-ce qu'elle peut nous inspirer ou avoir nous offrir une intelligibilité pour la formation initiale, donc aussi avec des adultes, mais qui n'ont pas une identité professionnelle aussi affirmée, mais ils peuvent en avoir une quand même, et certains en ont déjà une, et notamment en enseignement, on retrouve des gens qui se réorientent et qui ont. Donc, on peut l'utiliser, mais dans quelle mesure? Et j'étendrais, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi en formation des jeunes en formation obligatoire, donc une identité qu'on ne dira pas professionnelle? Et est-ce qu'il y a un lien là avec les travaux sur le rapport au savoir ou un savoir scolaire, donc un savoir de formation? Et ça fait peut-être le lien avec mon deuxième volet qui est, mais que Aziz a déjà soulevé, donc, ce cadre d'intelligibilité, qu'est-ce qu'il offre comme retombée pour le formateur? Le formateur, moi, je trouve toujours intéressant les travaux sur l'identité, mais comme formateur, mon matériau premier, c'est pas l'identité, ça va être la conséquence pour moi. Mon matériau, c'est le savoir. Donc, ce qu'on transige avec l'apprenant, c'est autour du savoir, mais peut-être tu le recadres autrement, donc en termes de retombées pour le formateur.
Vaste champ de réflexion. Alors, peut-être commencer par la formation des jeunes et remonter un petit peu. Comment dire? Parce que l'hypothèse derrière ta question sur les jeunes, donc, c'est que ces jeunes-là n'ont pas de. d'identité professionnelle. Donc là, puisqu'ils sont encore élèves ou étudiants, donc peut-être on peut dire qu'ils ont quelques ingrédients, mais pas une identité construite, puisqu'on peut dire qu'ils ont fait des petits stages par-ci, par-là. Donc il y a quelques ingrédients de l'identité professionnelle, mais il n'y a pas encore une identité professionnelle en construction ou construite. Et il y a des chercheurs qui font la différence entre la socialisation par le travail et la socialisation pour le travail. Donc là, c'est là où on va voir un petit peu cette idée de l'identité professionnelle. Donc la socialisation par le travail, ça peut être donc des personnes qui sont adultes, en formation en alternance, ou bien qu'ils ont déjà, comment dire, une expérience professionnelle et se forment par la formation en alternance. Donc là, ils sont déjà dans le champ professionnel et donc il y a une socialisation qui s'accentue par le travail. Dans le cas de jeunes, quand ils font des stages de découverte, quand ils vont dans le milieu professionnel mais sans avoir une identité professionnelle, donc il y a des ingrédients qui se construisent et on parle souvent de socialisation pour le travail. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore en situation d'être dans le travail, mais on les socialise pour le travail. Donc ça peut être aussi des travaux pratiques, des visites d'entreprise. Donc on les socialise pour le travail. Je sais pas si... Donc du coup, effectivement, cette distinction peut montrer... Alors, dans ce cas-là, en termes d'identité, moi je dirais que... et d'ailleurs, ça fait le lien avec la formation initiale. Peut-être on n'est pas dans, comment dire, on est dans ce qu'on peut appeler, une typologie que je n'ai pas nommée, c'est les dynamiques d'acquisition d'une nouvelle identité professionnelle. Donc là, on n'est pas dans une dynamique de confirmation ni de transformation, on est plutôt dans une dynamique d'acquisition. Donc là, alors je ne sais pas si ça peut... Moi, je l'ai rencontré par exemple au niveau des formations des inspecteurs, où il y a des personnes qui sont issues du ministère parce qu'ils faisaient déjà le contrôle du travail et donc ils ont déjà une identité professionnelle assise en tant que contrôleuse ou contrôleur du travail. Et ils passent le concours, ils suivent une formation pour devenir inspecteur ou inspectrice du travail. Donc là, on est, donc il y a déjà une identité acquise, quoi, voilà. Et il y a des jeunes sortant du système universitaire qui ont fait le droit ou Sciences Po ou d'autres, et qui passent le concours, mais ils n'ont pas d'identité professionnelle en tant que telle. Ils ont quelques éléments, mais pas... Et donc là, pour eux, si mes souvenirs sont bons, par exemple, la formation en alternance était, acquérir une pratique professionnelle, parce qu'ils n'avaient pas de pratique professionnelle. Deux, c'est acquérir une identité professionnelle en lien avec cette pratique professionnelle. Donc là, du coup, on est plutôt dans des dynamiques d'acquisition, donc de construction d'identité professionnelle. Voilà. Donc ça, c'est. Alors, l'autre idée, est-ce qu'on peut généraliser donc la typologie de. Tu as vraiment raison en disant que la typologie est contextualisée. Déjà, au niveau de la formation des adultes, on est plutôt dans des déformations plutôt longues. Ben ça, c'est difficile d'appliquer cette typologie. Ça montre aussi les limites du champ de validité, donc du travail de recherche et de la typologie. Si on a une formation de 3 jours, 4 jours, une semaine, ça me semble difficile de l'isoler en tant que tel et dire, là, ça exprime telle dynamique identitaire. Pourquoi ? Parce que c'est limité dans le temps et dans l'espace et on n'a pas la possibilité... Par contre, si cette formation d'une semaine ou 3 jours fait partie d'un processus de formation, même si ce n'est pas un dispositif, mais plusieurs moments, et qu'on voit la personne aller régulièrement à ces formations-là, on peut. Mais si c'est des formations limitées dans le temps et dans l'espace, ça montre les limites du champ de validité donc de la typologie. Donc là, je suis d'accord avec toi que c'est plutôt pour des formations qui ont une certaine durée, on peut parler de dispositifs et non pas seulement d'une action limitée dans le temps et dans l'espace. Alors, et donc c'est la raison pour laquelle dans la formation initiale, et tu l'as commencé à le faire, il faut avoir une typologie du public. Donc là, peut-être il y a des publics qui est déjà professionnel, et dans ce cas-là, ça peut être valable pour eux. Mais s'il y a des publics jeunes qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle, ça montre un peu... On peut faire des extrapolations si on passe... Par exemple, ces personnes-là, ces jeunes, ils sont déjà impliqués dans un sens social, associatif. Donc on peut dire qu'il peut y avoir une transformation identitaire, puisqu'il passe du champ social au champ professionnel, mais c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Ça montre un peu la limite, tu mets le doigt sur les limites de la typologie, quoi.
Je voudrais un peu rebondir sur la question à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu au sujet des retombées sur les formateurs.
Ça, voilà.
Mais j'aimerais introduire peut-être un élément pour vous permettre de répondre. Peut-être.
Merci beaucoup. Mais je savais que vous alliez me poser la question. Je me suis
déjeuné. Quelle est la retombée pour les formateurs, pour un enseignant ou un accompagnateur d'adultes, à quoi ça nous sert cette typologie? Alors qu'Annie dit, mon matériau premier, c'est le savoir. Quand on travaille en éducation des adultes, le savoir est toujours un matériel important, mais l'expérience du participant est peut-être le premier matériau. Je ne sais pas si... Dans l'interaction en formation des adultes, on travaille beaucoup, beaucoup avec la trajectoire de la personne, l'écoute de l'expérience de la personne, et beaucoup l'andragogie a mis ça de l'avant. Je ne sais pas si vous, est-ce que vous pouvez poursuivre ou répondre à Annie?
Alors, je vais répondre en partie à la question, comme ça quelqu'un d'autre me rappellera le reste. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a un premier point, un premier élément de réponse. Peut-être qu'il faudra faire la différence entre l'engagement en formation et l'engagement dans l'apprentissage. Je crois que c'est deux éléments importants. Ce que je vous ai proposé là, c'est plutôt l'engagement en formation. Pourquoi ? Parce que la formation englobe et dépasse l'apprentissage. Mais on peut analyser l'engagement en formation sans analyser l'apprentissage, qui est le rapport au savoir en train d'être appris. Je sais pas si... Donc là, c'est plutôt le rapport à la formation, le rapport au dispositif, le rapport à est-ce que j'y vais, je ne vais pas, est-ce que j'entre en formation, je n'entre pas en formation. Donc, alors quand on est dans l'engagement dans l'apprentissage, là, on est... en prise avec le rapport au savoir. Je ne sais pas si vous faites cette différence. Donc, il y a le rapport, c'est l'engagement en formation et l'engagement dans l'apprentissage. Alors, moi, j'ai répondu plutôt au premier. Donc, c'est l'engagement en formation et non pas l'engagement dans l'apprentissage. Alors, peut-être je vais essayer de donner quelques éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est peut-être qu'il y a toute une réflexion autour de le rapport entre l'identité et la compétence, puisque dans la compétence, il y a le savoir. Et là, c'est toute une difficulté, et ça dépend des points de vue. Est-ce qu'on considère la compétence comme un ingrédient de l'identité, ou est-ce qu'on considère l'identité comme étant l'un des ingrédients de la compétence? Je ne sais pas si vous voyez le jeu de mots. C'est-à-dire, est-ce que la compétence et le savoir qui l'accompagne font partie de la construction de l'identité? Et dans ce cas-là, on est dans une analyse à partir de l'identité. On peut aussi inverser les rôles, les choses en disant, l'identité est l'un des ingrédients de la compétence. Puisque maintenant, de plus en plus dans ce monde libéral, la mobilisation de soi devient une compétence. Et donc, du coup, l'identité devient un élément de la compétence. Je ne sais pas si vous voyez, c'est clair ça ou pas, non? Apparemment, je ne réponds pas encore, c'est seulement pour... Alors, dans ce cas-là, effectivement, ça dépend si on prend l'entrée par l'identité ou par la compétence. Et donc... on peut dire, par exemple, il est clair que le rapport au savoir et donc à l'apprentissage, en tout cas dans mon esprit, il dépend de la dynamique identitaire de la personne. Alors, je vais vous donner un exemple qui est concret. La recherche que j'ai effectuée avec les médecins inspecteurs de la santé publique, donc ce sont des médecins, en partie, qui avaient déjà un contrat avec la région, donc la, du ministère de la Santé. Donc, ils avaient déjà un contrat à durée déterminée. Et ça faisait 2 ans qu'ils pratiquaient en tant que médecins inspecteurs de la santé publique. Sauf qu'ils ne sont pas sortis de l'école. C'est des médecins qui ont une pratique et donc ils ont été engagés en tant que tels. Mais pour être médecin inspecteur de la santé publique reconnu en tant que tel et engagé comme fonctionnaire, il faut avoir le diplôme de l'École nationale de la santé publique. Donc après 2 ans, ils étaient obligés de passer le concours pour avoir la légitimité d'exercer le métier d'inspecteur de la santé publique. Alors quand j'étais faire la recherche donc à l'École de la santé publique, les formateurs et formatrices me disaient « mais on a toute une partie de personnes qui sont désengagées, qui ne veulent pas apprendre, ils sont vraiment dans le conflit, on dirait des enfants gâtés. » La recherche montre quoi ? Montre qu'effectivement ces personnes-là, pour certains, pouvaient en savoir plus même que certains formateurs et formatrices. Parce que c'est des médecins, ils ont une expérience, ce qu'on leur enseignait déjà, ils le pratiquaient. Et donc, ils sont venus en formation, ils se sont engagés dans la formation, mais ils ne se sont pas engagés dans l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que l'apprentissage qu'on voulait leur apprendre, pour certains, ils se croyaient déjà plus sachants que certains. Donc, du coup, il y avait un rapport négatif donc, à l'apprentissage. Et donc, du coup, il y avait, à la rigueur, même rejet du savoir parce qu'ils le considéraient comme étant infantilisant, parce qu'il ne prend pas en compte toute l'expérience professionnelle et le savoir acquis dans l'expérience. Je ne sais pas si vous voyez. Alors ça, c'est un premier élément. Il y a d'autres personnes, notamment qu'on peut trouver, et qui trouvaient dans une formation, ces inspecteurs de la santé publique trouvaient, ce qu'ils voulaient, c'était le diplôme. Ils n'ont pas l'apprentissage. D'autres personnes qui n'ont pas cette expérience-là venaient à l'école et ils venaient parce qu'ils n'avaient pas le savoir requis pour exercer. Donc le rapport qu'ils avaient avec le savoir était un savoir de demande parce que pour eux, leur identité professionnelle, leur légitimité par la suite dépendait de l'acquisition de ce savoir-là. Et donc du coup, même le rapport à l'évaluation était complètement différent. Pour certains, refuser l'évaluation, les premiers, parce qu'ils la considéraient comme étant illégitime. Pour les autres, ils la demandaient parce que c'était la garantie d'avoir appris. Je sais pas si vous... Et donc, ils avaient un rapport à l'évaluation, un rapport de demande, parce que sans évaluation, tout leur savoir ne valait rien. Parce qu'il leur fallait une reconnaissance par l'évaluation. Je ne sais pas si vous voyez le... Alors, je sais pas si ça répond à la question, mais pour moi, c'est une façon de dire... que le rapport au savoir, donc les uns étaient dans une dynamique de confirmation identitaire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient déjà l'identité de médecin inspecteur de la santé publique et ils venaient seulement pour avoir le papier, le diplôme, pour confirmer une identité déjà existante. Pour les autres, ils étaient dans une dynamique d'acquisition donc d'une identité parce qu'ils n'avaient pas cette reconnaissance. Et donc, du coup, ne pas avoir l'évaluation là, qui reconnaît le savoir acquis posait problème. Mais je ne sais pas si... Je vous sens...
C'est la question Alors, de la vie. Donc, c'est la question de la vie. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Oui, ça répond davantage. Puisque la réponse à Annie, en quelque sorte, là, c'est de dire que comme formateur, on n'a pas seulement le savoir du formateur, c'est qu'il faut prendre en compte l'identité, la dynamique identitaire de la personne qui est devant nous avec une expérience, vous dites, c'est complexe. Et pour saisir son rapport au savoir et son propre savoir aussi.
Alors moi, je dirais même plus, ça c'est un premier élément de la réponse, mais pour moi, ce serait de poser la question aux formateurs et aux formatrices, quelle est leur propre dynamique identitaire dans laquelle ils projetaient un projet sur les apprenants à partir de leur propre posture et leur propre... Donc c'est une double interrogation. Je ne sais pas si vous voyez. Et il y a beaucoup de formatrices et formateurs qui peuvent faire des dégâts parce qu'ils ont un projet sur autrui sans interroger leur propre projet d'identité. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est comme les enfants, c'est Françoise Dolto qui disait ça, quand les parents ont un projet sur les enfants ont un destin. Voilà, donc les formateurs, c'est pas pour, parce qu'on est tous dans le même métier, hein, mais il y a une double interrogation à faire. Une interrogation sur pourquoi, quel est le rapport des apprenants au savoir que je suis en train de leur... Tout ça, en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la formation, il y a deux aspects. Il y a l'offre de formation, il y a la demande de formation. Dans l'offre de formation, il n'y a pas seulement que le savoir que je suis en train de proposer à l'apprenant, mais il y a aussi l'identité qui est derrière et qui est sous-jacente à ce savoir. Parce que derrière le savoir et son appropriation, il y a l'être humain qu'on a envie d'avoir dans le futur. Et ça, ça montre quelle posture on veut développer chez les personnes dans la société, quelle posture et façon d'être dans l'entreprise ou dans l'institution ou à l'école ou à l'établissement. Donc il y a une projection identitaire derrière la proposition du savoir. Donc là, toute la question, en fonction de quelle dynamique identitaire la formatrice ou le formateur propose ce savoir-là. Est-ce qu'il y a une adhésion complète au savoir institué? Est-ce qu'il y a un recul, une distance et une interrogation de ce savoir qu'on veut distiller, donner aux autres et l'interroger aussi, interroger le sens et pour soi et pour autrui? Et il y a le deuxième aspect, c'est la demande de savoir, puisqu'un apprenant, quand il s'engage dans la formation, il est demandeur ou demandeuse de savoir, de compétences. Mais derrière cette demande de savoir et de compétences, il y a aussi une demande d'identité. C'est le projet que j'ai sur moi-même en m'engageant dans la formation. Et toute la question qui est posée, c'est quel est le lien entre l'offre et la demande de savoir et l'offre et la demande d'identité. S'il y a complémentarité, s'il y a un sens des deux parties, et surtout pour l'apprenant, alors il y a engagement en formation. Mais s'il n'y a pas de sens, mais il y a une signification qui est donnée et non pas un sens, là il risque d'y avoir réticence et hostilité que souvent on a tort à interpréter comme étant une résistance au changement. Ce n'est pas une résistance au changement, c'est une affirmation d'une authenticité qu'on ne trouve pas dans la formation et que l'institution nous distille sous des... Voilà, donc ça peut être aussi une autre façon de répondre, mais je ne sais pas si... Donc moi, j'ai du mal à dire quelles sont les retombées pour le formateur ou la formatrice.
Très rapidement, c'est que le dernier échange a suscité deux réactions. On est pas mal au thème, je ne sais pas, de la part de Trois-Rivières. Je propose qu'on entende peut-être les deux personnes que j'ai vues réagir et peut-être une dernière réaction de ta part.
C'est de la faute à... C'est...
Ben oui, c'est... Ouais. C'est
je croyais que c'était un peu petit. Hein.
Oui, merci madame. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le professeur. Concernant, c'est-à-dire les besoins, c'est-à-dire l'offre et la demande. Hein? Donc, offrir une formation qui motive, hein? Motive bon, on prend l'exemple sur les enseignants, est-ce que vraiment les enseignants, s'ils s'engagent dans une formation continue, est-ce que cette formation, elle est motivante pour eux, hein? Est-ce qu'elle répond vraiment à leurs besoins, comment dirais-je, en particulier auprès de ces apprenants, les besoins pédagogiques. Je pense qu'il y a le mot motivation. C'est-à-dire, si on motive quelqu'un, créer un environnement favorable à l'apprentissage pour essayer de construire une identité professionnelle. Et je pense que l'offre et la demande, c'est un, comment dirais-je, très indispensable dans le domaine de la formation et l'apprentissage.
Peut-être avant, on va entendre peut-être Marie également. Mais qui moi, réagit je... à peu près au même moment.
Bonjour, merci de votre conférence. Écoutez, c'est que je regardais, moi, je trouve que personnellement, la plupart des individus devraient être dans une dynamique d'entretien identitaire, mais c'est souvent pas le cas. Puis comme vous disiez, bien, la plupart des individus se trouvent souvent dans une notion de confirmation identitaire, dans une situation de confirmation identitaire, surtout quand ils sont assez vieux, puis assez formés pour prendre conscience qu'ils sont dans ce processus-là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ou qui ignorent, surtout plus jeunes, qui sont dans un processus de confirmation identitaire qui le sont. Alors, si on regarde, par exemple, des gens comme les enseignants, parce que moi, j'ai pratiqué 18 ans comme enseignante auprès des adultes, et puis j'ai fait de la typologie, mais dans un autre domaine complètement. Mais j'étais quand même, je suis quand même une personne qui aime les typologies en général. Alors, je me dis que souvent, les enseignants, comme ils sont dans une situation de confirmation identitaire, dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent a priori apparaître réfractaires aux formations, surtout si c'est, ils ont l'impression par ces formations-là qu'on ne reconnaît pas l'identité qu'ils ont essayé de se créer. Alors, moi, c'est pour ça que je me rends compte que finalement, quand on forme des adultes, que ce soit dans un contexte X, Y ou Z, je suis d'accord avec vous qu'il faut prendre en compte les motivations de la formation elle-même, puis aussi les motivations qu'on a à former les gens, mais en même temps, les motivations aussi intrinsèques qui peuvent exister à l'intérieur de l'institution pour créer une offre de formation. Et puis, quand je regarde un peu le parcours de mes étudiants à l'éducation des adultes, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui réagissent un petit peu aux dynamiques que vous aviez identifiées, surtout en termes d'indifférence, d'hostilité, mais que souvent, chez les individus plus jeunes, la mouvance, si on veut, de ces motivations-là est beaucoup plus grande que chez des individus qui sont inscrits dans un projet plus, on va dire, plus ciblé ou dans un projet qui leur est imposé. Alors, moi, je trouve ça quand même intéressant, la typologie que vous proposez, dans mesure où ça repose beaucoup aussi sur les observations que vous avez faites. C'est-à-dire qu'une typologie, pour moi, peut fonctionner à partir du moment où on n'essaie pas de l'induire sur nos sujets, mais bien de la déduire des observations qu'on a faites. Alors, ça se peut qu'il y ait une certaine mouvance. En tout cas, c'est une réflexion que j'avais sur votre... sur tout ça.
Voilà. En tout cas, peut-être pour terminer, moi, c'est vrai que je suis souvent confronté quand je fais des conférences comme ça. Là, ça va, vous êtes... mais c'est dans certains, avec des gestionnaires de ressources humaines, souvent la question vient, mais quelles sont les retombées, comment opérationnaliser, comment faire? Et je résiste souvent. Et donc, le mot de la fin, je vous invite à vraiment à utiliser les typologies avec des pincettes, parce que sinon, vous allez caricaturer les choses et cataloguer, et classer les gens en disant ça, il est lui là, celle-ci, elle est là. Donc, ça, c'est vraiment le mauvais souvenir que je garderai si vous faites ça. Donc, voilà. Donc faites la différence entre les retombées pratiques de comment faire, des retombées intellectuelles, c'est-à-dire les outils d'intelligibilité et de compréhension des actes et des comportements, non pas pour les figer, mais pour comprendre leur dynamique. Voilà. Donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est de retomber en termes d'outils d'analyse et non pas en termes d'outils d'action, parce que ce n'est pas de l'action que je vous propose. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Merci. Merci.